Chers camarades transhistoriens, pour cette chronique, j'avais beaucoup d'idées de sujets, mais j'ai eu beaucoup de mal à trancher, je dois dire. J'aurais pu improviser un Biologica Radiophonicus, mais en l'absence de Léo et Baptiste, c'était un petit peu risqué. J'ai hésité, donc, beaucoup, entre la graisse, le végétarisme, les almoravides, les chats, et même la spiruline, qui est une algue disponible en comprimé en pharmacie, et qui apporte du fer, ce qui est très utile en période hivernale. Et tout d'un coup, alors que je prenais un bain, bien mérité après une dure journée de procrastination, la solution m'est apparue. Il me fallait un sujet fédérateur, un sujet vous touchant tous dans ce studio et tous, chers auditeurs. Un sujet de fond, et j'ai choisi un sujet qui concerne d'ailleurs de très près Madame Pénélope Fillon, qui a, on le sait, fait de très nombreux allers-retours entre la Sarthe et Paris en tant que très présente attachée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord du TGV 8088 à destination de Paris-Montparnasse. Ce train est sans arrêt jusqu'à son terminus, Paris-Montparnasse. Attention à la fermeture automatique des portes et bla et bla et bla, vous connaissez sans doute la suite déjà par cœur, comme Madame Fillon. Mais laissons un peu Pénélope dans la Sarthe et revenons ici à Lyon. Mathias, toi qui es avec moi et qui es très urbain, tu prends le TGV?
Oui, bien sûr Clément.
Et tu le prends pour aller où?
Eh bien, je vais à Paris.
Ah bah oui, le TGV pour aller à Paris, qui ne bénit pas cette ligne Paris-Lyon, directe, si l'on accepte les quelques petits trains qui se perdent dans la très confidentielle gare du Creusot TGV. Faisons un petit calcul. De l'entrée de l'ENS sur le parvis des cartes à votre quai, en général le A à la gare Pardieu, il faut à peu près 15 minutes. Lyon-Paris, en TGV, c'est soit 1h57, soit 2h03 selon le train choisi. Ce qui fait que porte à quai, vous passerez de Lyon à Paris en au mieux 2h10, bon 2h20 si vous partez de mono. Et cela doit beaucoup plaire à certains de nos camarades trouvant le désert lyonnais invivable et insupportable en comparaison des lumières et du très élégant et très odorant métro de la capitale. Alors la vitesse, c'est le succès. La vitesse, c'est moderne. Et c'est vrai que c'est pratique. Réduire les distances-temps, ça permet de faire plein de choses, que ce soit en termes d'aménagement du territoire ou même en termes de possibilités personnelles. Puis, ça paraît finalement assez logique de relier rapidement les villes les plus importantes du territoire entre elles. Marseille est à 1h44 de Lyon et à 3h24 de Paris. Les liaisons avec la capitale, ça marche bien donc, ça arrange tout le monde et ça fait un très joli réseau en étoile centré sur Paris. Mais pourtant, dans le détail, il y a quand même des trucs qui déraillent, non ?
Voie E, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai.
Depuis les années 70 et 80 en France, on promeut la grande vitesse. Paris, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg, et ça continue. Début juillet, ce sera Paris-Bordeaux qui sera enfin une ligne à grande vitesse. Oui, parce que jusqu'ici, sur ce trajet Paris-Bordeaux, vous payez le prix d'un TGV, hein, mais vous ne roulez à 300 km/h que jusqu'à Poitiers. Et c'est un peu le problème de la plupart des LGV d'aujourd'hui. À l'origine, la grande vitesse devait permettre de baisser les prix. Bon, je vous dis ça, c'était dans les années 60. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt l'inverse, d'où le succès, entre autres, des cars Macron.
Et puis oui, une ligne LGV pas rapide, c'est un peu dommage, non ?
Oui, et il n'y a pas que là qu'il y a tromperie sur la marchandise. Même quand ça roule relativement vite, il y a des lignes LGV où le nombre d'arrêts est un petit peu rédhibitoire. Un train qui s'arrête toutes les 60 km, eh bien, il ne roule vraiment pas souvent à 300 km/h. Et si vous cumulez ces deux problèmes, eh bien, c'est le jackpot. C'est le cas pour faire Paris-Brest, la ligne, hein, pas le gâteau. Le TGV roule à 300 km/h jusqu'au Mans, puis roule sur des voies normales ensuite et va s'arrêter tous les 50 km. Alors pourquoi un tel choix ? Ça paraît, il y a une explication logique, vous allez voir. Un tel choix pour éviter un effet tunnel des territoires traversés. Alors on parle d'effet tunnel quand les infrastructures de transport vont traverser un territoire sans le desservir et le territoire en question va se retrouver marginalisé et reste tout aussi mal desservi.
Alors c'est très bien qu'un TGV s'arrête tous les 50 km.
Oui, mais là Mathias, ça va dépendre du point de vue. Vu que la Bretagne, c'est pas la région la mieux desservie en France, on peut le voir comme ça. Après, Brest, c'est un cas un peu particulier parce que Brest, bah, c'est quand même le Finistère et c'est l'hyper-périphérie du territoire français. Et pour y aller d'après Paris, d'après Voyage SNCF en personne, c'est entre 4h18 et 4h44 quand même. Puis toute cette course à la vitesse, on peut aussi l'interroger. Au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire Paris-Bordeaux en 2 heures au lieu de 3? Puis, au-delà de cette question, et au-delà de cette question de la distance-temps, la SNCF est censée être une entreprise publique. Pourtant, depuis quelques années, on assiste à une véritable désertification de certaines zones en termes de desserte ferroviaire, et là, ce n'est plus du tout des TGV qu'on parle. Mathias, est-ce que tu prends des intercités?
Mais oui, Clément.
Ah, donc tu les connais bien, ces intercités. Donc pour vous qui ne les connaissez peut-être pas, chers auditeurs, ce sont ces anciens trains corail, datant des années 70, mais avec d'énormes banquettes très confortables. Si certains d'entre vous sont déjà allés à Deauville ou à Caen, en Normandie, eh bien soyez heureux. Vous avez voyagé en corail. Il y a même encore des compartiments dans certains d'entre eux. Et là, je vous vois venir, des compartiments. C'est exactement comme... Mathias, une idée ?
Aucune idée.
Mais comme le Poudlard Express.
Ah, mais oui,
voyons.
Bien sûr.
Et lorsque j'étais gosse, d'ailleurs, eh bien, il y avait même un chariot à friandises qui passait. Oui, j'ai connu ce temps-là, Mathias. J'avais le sentiment d'aller à Poudlard en allant à Paris visiter la Tour Eiffel. Mais je m'égare, Mathias, tu devrais me recadrer un petit peu. Alors, je ne vous parle pas des intercités pour leur compartiment, mais parce que ces trains, dans la nomenclature de la SNCF et du ministère de l'Environnement, ils sont appelés « trains d'équilibre du territoire ». Mathias, est-ce que tu peux nous lire ce qu'on trouve sur le ministère de l'Environnement ?
Mais bien sûr, Clément.
Merci.
Les trains d'équilibre du territoire assurent un service grande ligne rapide entre les principales villes françaises non reliées par la grande vitesse. Elles permettent également le désenclavement des territoires sur des liaisons interrégionales province-province. Enfin, ils participent à l'amélioration des déplacements pendulaires dans le grand bassin parisien qui représente environ la majorité du trafic des trains d'équilibre du territoire.
Alors, on a plein de trucs géographiques là-dedans. Ça parle de déplacements pendulaires. Alors, les déplacements pendulaires, d'abord, ça désigne des déplacements qui sont quotidiens. Par exemple, en Normandie, toujours, vous avez énormément de gens qui travaillent à Paris et qui font l'aller-retour tous les jours, grâce à ces intercités et cette bonne liaison ferroviaire. Le site nous parle aussi de désenclavement du territoire, rappelant la mission de service public, qui est normalement celle du train en France. N'oublions pas qu'on a eu, dans cette optique, un ministère de l'égalité des territoires au début du quinquennat de François Hollande. Le problème, c'est que c'est des grands mots et qu'il y a une politique derrière qui fait à peu près l'inverse. Depuis les années 2000, la plupart de ces lignes, de ces trains d'équilibre du territoire, sont en déficit du fait d'une faible fréquentation et la SNCF a longtemps envisagé leur fermeture. Dans le dernier plan État-région, l'État délègue même la gestion et le financement de la plupart de ces lignes aux régions.
Et à côté de ça, l'État n'hésite pas à engager des sommes d'argent importantes dans des infrastructures comme le TGV.
Oui, alors on ferme les lignes peu fréquentées, ce qui peut être très déstabilisateur pour des territoires déjà enclavés, ou alors on les maintient en déléguant leur financement à des collectivités territoriales exsangues financièrement. A l'inverse, l'aménagement des lignes TGV, ça coûte très cher, mais on le justifie en disant que ce sera rentable. Ainsi, la LGV Europe Sud-Atlantique, qui mettra Bordeaux à 2 heures de Paris, elle a déjà coûté plus de 6 milliards d'euros. Et s'il y a un projet de ligne qui fait polémique à l'heure actuelle, c'est la nouvelle ligne TGV Lyon-Turin. Vous en avez forcément entendu parler ces derniers temps. Aujourd'hui, pour faire Lyon-Turin, c'est lent. Le TGV roule des voies qui ne sont pas du tout prévues à cet effet. Et pour l'avoir pris, je peux vous assurer que c'est lent. En fait, le seul moment où il roule à une vitesse à peu près LGV, justement, c'est après Turin, c'est dans la plaine du Pô en direction de Milan, pas de bol. Mais rouler lentement, ça a aussi ses avantages, surtout quand on est dans les Alpes, parce que les paysages alpins, surtout du côté italien, c'est quand même vraiment très beau.
Et que prévoit le chantier ?
Alors, lorsque vous emprunterez cette ligne, fini les beaux paysages alpins. Vous roulerez dans 50 km de tunnel. Le coût du projet est pharaonique, des milliards d'euros financés par pêle-mêle la France, l'Italie, l'Union Européenne. Et la démesure du projet a entraîné beaucoup de résistance. La ligne actuelle est très loin d'être saturée, le coût écologique du percement du tunnel n'a pas vraiment été calculé, et le percement de ce tunnel risque de ne pas être facile du tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Alpes, géologiquement parlant, c'est un peu le bazar pour ne pas dire autre chose, et on peut tomber sur à peu près n'importe quoi en creusant, y compris des pierres assez sympathiques comme l'amiante et l'uranium. Alors cela n'a pas empêché nos parlementaires de voter à la fin de l'année 2016, à quelques jours de Noël et à la quasi-unanimité, ce qui est quand même très rare, en faveur d'une enveloppe de 8 milliards d'euros pour le Lyon-Turin, alors même que tous les financements ne sont pas encore acquis. Puis bon, après tout ce projet, d'après le député du Rhône, Philippe Cochet, c'est tout de même plus important que, je cite, « la protection des crapauds à poils durs ».
Donc c'est un Notre-Dame-des-Landes 2, en fait.
Oui, exactement, parce que la contestation a été très virulente, notamment du côté italien, avec un mouvement Notav, assez médiatisé de l'autre côté de la frontière. Et pour l'anecdote, vous savez qui gère actuellement le dossier ? Une idée ?
Aucune.
Eh bien, c'est Jean-Marc Ayrault, cet ardent défenseur de Notre-Dame-des-Landes et ministre des Affaires étrangères. Il aime les grosses infrastructures, Jean-Marc. Et puis, je vais conclure sur une dernière petite donnée. Notre-Dame-des-Landes, c'est cher et injustifié. La LGV Lyon-Turin, elle est bien contestable et bien contestée, en plus d'être très chère et pas très bien financée. Et pendant ce temps-là, Le reste du réseau est dans un état absolument déplorable et les lignes non LGV souffrent d'un manque d'entretien. C'est pas facile quand même, hein, l'aménagement du territoire. Alors je vous laisse maintenant, puisqu'il est bientôt 20h. Un grand merci à toi, Mathias, pour m'avoir accompagné. Un grand merci à Rémi, à la régie, et à Aurore et Marie qui ont été au jingle. Et à bientôt peut-être, chers auditeurs, pour de nouvelles aventures ferroviaires.
J'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir.
Merci Clément et Mathias pour cette sympathique escapade ferroviaire et on attend avec impatience le prochain épisode de La Rédaction vous parle. Mais il est 20h, chers auditeurs, et c'est l'heure du flash. Et c'est moi qui assure ce flash de 20h. Nous commençons comme toujours par la politique avec François Fillon, qui est bien décidé à poursuivre sa campagne. Le candidat des Républicains était aujourd'hui à Juvisy dans l'Essonne pour parler sécurité dans les transports et vidéosurveillance aux côtés de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Mais c'est sans compter sur les nouvelles révélations du canard enchaîné sorties aujourd'hui et dont Marine vous a parlé tout à l'heure. En effet, Pénélope Fillon aurait, selon Palmipède, touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement, ce que François Fillon a tout de suite réfuté. Puisqu'on parle d'argent, la Cour des comptes a publié aujourd'hui un rapport qui souligne plusieurs cas de mauvaise gestion de l'argent public. L'abandon de l'écotaxe en 2014 est ainsi qualifié d'échec de la politique publique, dont les conséquences seront probablement très durables. Cet abandon aurait coûté environ 1 million d'euros en indemnisation. Et la Cour des comptes pointe aussi la gestion jugée laxiste de l'Omniam, établissement censé faciliter l'indemnisation à l'amiable des victimes d'erreurs et d'accidents médicaux et la situation budgétaire alarmante du Muséum d'histoire naturelle. Enfin, la ville de Levallois-Perret, dirigée par Patrice Valcani, est montrée du doigt pour ses dérives. Le Conseil d'État demande au ministère de la Santé de prendre des mesures pour rendre accessibles les vaccins obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ces vaccins sont les seuls à être obligatoires pour les moins de 18 mois et doivent être disponibles sans association avec d'autres vaccins. En Russie maintenant, l'opposant russe Alexei Navalny a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 roubles d'amende pour avoir détourné 400 000 euros au détriment d'une société publique d'exploitation forestière. Il a décidé de faire appel et maintient sa candidature à l'élection présidentielle. Enfin, la candidature écolo vivrait-elle ces derniers instants? Yannick Jadot, le candidat issu de la primaire d'Europe Écologie Les Verts, est en peine pour trouver ses 500 parrainages. Il pourrait donc rallier Benoît Hamon, jugé écolo-compatible. Et c'est en tout cas ce que semble dire Cécile Duflot dans une interview à Libération. La députée de Paris appelle en effet à créer une coalition désirable le plus rapidement possible. C'était le Flash Info. Chers auditeurs, quittons les tracas de ce monde pour un peu de divertissement et de légèreté jusqu'à 20h30. Puisqu'à 20h30, en fait, Nicolas vous a contacté des énigmes à déchiffrer de son cru, auxquelles devront se frotter nos deux invités du jour, Pierre et Julien, dans un nouveau numéro de J'aime beaucoup ce que vous dites. Mais tout de suite, un peu de lecture en compagnie d'Eva, Alice et Marie, pour un nouveau numéro de Les Yeux des oreilles, placé cette semaine sous le signe de la séduction malheureuse. Il y a des fois où on a beau faire tout ce qu'on peut, ça ne matche pas, comme on dit aujourd'hui. Eva, Marie et Alice, c'est à vous.